radio est importante car c'est un moyen de communication très intime, dans notre cas en langue garifuna et en espagnol. Ce que nous racontent les médias à la solde du pouvoir, les médias pro-gouvernementaux comme Radio América ou HRN, ce sont des mensonges à la population. Les journalistes de HCH, par exemple, passent son temps à inciter à la violence. Et lorsqu'il y a un cadavre qui apparaît dans une rue, ils se lancent dessus, parfois en détruisant la scène du crime. Eh bien, cette chaîne, HCH, c'est comme une chaîne nationale. Tout ce climat médiatique est assez néfaste pour désaliéner les gens, les décoloniser et les dédomestiquer. Il constitue une menace.
Des radios Garifuna, il y en a eu d'autres. Mais aujourd'hui, il ne reste que celle-ci.
De nombreuses radios Garifuna ont fermé leurs portes, certaines parce que leur équipement est tombé en panne, comme leur émetteur. La radio communautaire Garifuna Faluma Bimetu, qui a été attaquée, s'appelait Coco Dulce. Cette radio a été incendiée à plusieurs reprises. Pour l'instant, elle n'émet plus.
Un incendie criminel, car la radio appuyait la lutte des Garifuna pour conserver leurs terres, des terres convoitées par l'État du Honduras et par des promoteurs immobiliers.
Radio communautaire au Honduras, les peuples oubliés résistent par les ondes. C'est un reportage de Marie Griffon et Célia Pousset que vous pourrez entendre à 11h10 en temps universel dans l'atelier des médias sur RFI. D'ici là, le retour de l'information africaine dans une minute. Restez avec nous.
Afrique, mémoire d'un continent. Avec Elgas.
Parole d'aîné, l'Afrique en quatre dates tout au long du mois de juillet dans votre mémoire du continent. À l'honneur ce dimanche, un écrivain iconoclaste. Il vient du Togo, sociologue de formation, romancier, grand érudit et mentor de grands auteurs. Sami Tchak nous raconte son Afrique et ses quatre dates.
Afrique, mémoire d'un continent, tout à l'heure à 22h10 TU sur RFI.
C'est une drôle d'histoire. Depuis 3 mois, un inconnu m'envoie chaque semaine une enveloppe avec à l'intérieur un billet d'avion, un numéro de téléphone et l'adresse d'un hôtel.
Jack, dans les rues du Globe.
Alors j'ai décidé d'aller voir. Mais depuis, je n'arrive plus à rentrer chez moi.
Suivez Jack souvent dans son voyage au cœur des villes créatives francophones sur RFI.fr et sur l'appli RFI Pure Radio. Un podcast coproduit avec la mairie de Toulouse.
Dans l'enveloppe, le nom d'une ville.
Cette semaine, retrouvez Jack à Québec.
C'est dingue d'être là.
Merci d'écouter RFI, 6h30 à Paris, 4h30 en temps universel. Afrique Matin avec vous, Sébastien Duhamel, bonjour.
Bonjour Gaëtan, bonjour à toutes et à tous.
Le journal tout d'abord et un avant-goût du spectacle attendu à la mi-temps de la finale de la Coupe du Monde masculine de football ce soir près de New York.
Oui, un show à l'américaine évidemment Gaëtan pour cette édition avec tout ce que cela comporte. Un grand concert notamment donc au milieu de ce match Espagne-Argentine. Il y aura Shakira sur scène notamment et à ses côtés les Ghetto Kids qui viennent d'Ouganda malgré les craintes qui pesaient au regard de l'épidémie d'Ebola. Ils seront bien de la partie et RFI aussi. Journal du Mondial d'ailleurs dans une dizaine de minutes. L'actualité également en RDC après que le dialogue politique souhaité par les religieux a de nouveau été évoqué par le président Tshisekedi. La vague de violence xénophobe qui se poursuit en Afrique du Sud et qui pousse chaque jour un peu plus d'étrangers à fuir le territoire. Hier, un vol avec 121 ressortissants de RDC a notamment atterri à Kinshasa. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui fête ses 20 ans ce mois-ci avec un bilan plutôt mitigé selon l'ONG Amnesty International, vous l'entendrez. Et puis l'état d'urgence est énergétique réinstaurée à Madagascar. On ira sur la grande île. Voilà pour le menu. Vous êtes tous les bienvenus. C'est donc le grand jour pour les amateurs de foot et particulièrement, bien sûr, pour les Espagnols et les Argentins. Ils ont rendez-vous pour la finale de la Coupe du Monde ce soir au MetLife Stadium d'Es Rutherford dans le New Jersey à côté de New York. Et pour ce mondial à la sauce américaine, décrié sur bien des points, il y aura même un show à la mi-temps, un peu sur le modèle du Super Bowl et du foot US. Un spectacle mis en scène par Chris Martin, chanteur du groupe Coldplay, avec la participation de nombreuses stars comme Burna Boy, Madonna, les Coréens de BTS. Et bien sûr, Shakira, qui avait signé l'hymne officiel de ce mondial, encore une fois. Et à ses côtés, il y aura donc les Ghetto Kids venus d'Ouganda. Il y avait des inquiétudes au regard de l'épidémie d'Ebola qui frappe l'Afrique centrale, mais ils seront bien au rendez-vous, eux aussi, Christina Okello.
Lorsque Shakira invite les Ghetto Kids à venir danser avec elle lors de la finale de la Coupe du Monde, l'émotion est immense. King, l'un des jeunes danseurs ougandais, s'en souvient.
Tout le monde souriait, nous n'arrivions pas à y croire. Nous avons dansé toute la nuit.
Les Ghetto Kids ne sont pas étrangers aux grandes scènes internationales. Ils se sont déjà produits dans Britain's Got Talent au CAF Awards ou encore lors d'événements liés à la Coupe du Monde au Qatar. Mais cette invitation est de loin la plus importante de leur histoire.
Nous étions de grands fans de Shakira. Notre manager nous disait « Continuez à travailler, peut-être qu'un jour elle vous remarquera. » Et ce jour est arrivé.
Créée en 2013 à Kampala, l'organisation accueille une soixantaine d'enfants, orphelins ou issus des familles vulnérables. Grâce à la danse, elle finance leur scolarité et leur quotidien. Pour Ronnie, un ancien danseur des Ghetto Kids, cette invitation pourrait tout changer.
C'est grâce à ce genre d'événement que nous pouvons financer les frais de scolarité, les soins de santé, les vêtements et tout ce dont les enfants ont besoin.
Les inquiétudes désormais derrière eux, les Ghetto Kids ont pu rejoindre les États-Unis et se préparent désormais à vivre le plus grand moment de leur jeune carrière.
Les Ghetto Kids, Christina Okello, qui seront donc sur la scène du concert de la mi-temps de la finale du Mondial de foot ce soir dans le New Jersey, Espagne, Argentine. Rendez-vous à 19h en temps universel pour le coup d'envoi. Une rencontre diffusée évidemment sur l'antenne Afrique de RFI.
RFI à Kinshasa. 105 FM.
L'actualité est également marquée par ce dialogue politique qui semble s'annoncer en RDC. Vous l'avez peut-être entendu sur notre antenne, les religieux du pays l'appelaient de leur vœu et le président Tshisekedi y a consenti avant-hier, mais de son côté, l'opposition se concerte pour l'instant afin de déterminer la position à adopter et elle maintient pour l'heure une manifestation qui est prévue mercredi prochain pour contester le projet de réforme constitutionnelle porté par le pouvoir. Retour donc ce matin sur cette séquence politique, les tractations qui l'ont animée et surtout les doutes qui persistent avec Passion Ligodi.
Reprenons la séquence. Début juillet, à Bujumbura, le président burundais Evariste Ndayishimiye reçoit l'opposition congolaise et les confessions religieuses et les exhorte à la flexibilité. Quelques jours plus tard, la coalition C64 annonce le report de sa marche, initialement prévue les 8 juillet au 22. Le même jour, elle pose publiquement ses conditions à Kinshasa pendant que le cardinal Ambongo est reçu à Brazzaville par Denis Sassou Nguesso. Une semaine plus tard, Félix Tshisekedi se rend à Luanda pour rencontrer son homologue angolais. Cette annonce arrive donc au terme d'un mois de consultations régionales convergentes et 5 jours avant une manifestation annoncée contre tout projet de révision constitutionnelle. Ce resserrement du calendrier peut aussi bien traduire l'aboutissement d'un processus diplomatique réel qu'une volonté de peser sur cette échéance. Ce qui a en revanche vérifié, c'est que le gouvernement a lui-même recensé en conférence de presse une dizaine d'annonces similaires depuis février 2025 sans qu'aucune n'ait débouché sur la convocation effective d'un dialogue. Un précédent illustre cette prudence. En août 2025, déjà, un remaniement gouvernemental avait été présenté comme un geste d'ouverture avant que le dialogue politique, alors réclamé par l'opposition et les églises, ne soit une fois de plus contourné.
Passion Ligodi, la chasse aux étrangers, les violences xénophobes qui continuent en Afrique du Sud. Dans ce contexte, un premier vol a rapatrié hier 121 ressortissants de RDC à Kinshasa. Le ministère congolais des Affaires étrangères annonce que 260 dossiers ont été validés au total, car en Afrique du Sud, le climat se dégrade chaque jour un peu plus au rythme de ces manifestations. Plusieurs dizaines de milliers de ressortissants étrangers ont déjà fui. Un immense camp de réfugiés a même été installé. Un camp de réfugiés a même été installé dans le nord du pays pour coordonner les rapatriements, notamment vers le Malawi, où s'est rendu notre envoyé spécial Valentin Hugues.
Après 5 jours passés dans un camp de fortune au nord de Durban, puis près d'une semaine sur la route, Jabil Daniel et Patrick Gérald rentrent au Malawi traumatisés par la violence.
Un jour, 5 types m'ont attrapé et ils m'ont fait les poches. L'un d'entre eux me tenait par le cou. Il m'a menacé. Si on te revoit ici, on te tuera, il m'a dit. Maintenant, je suis de retour au Malawi et je ne sais pas ce que je vais faire. On n'a pas de travail ici, mais au moins, on a la paix. Ce qu'on a ici, c'est la paix.
Car si le Malawi est l'un des pays les plus pauvres du monde, dans ce petit village où le sol est recouvert d'une épaisse couche de sable, les deux amis n'ont plus peur des embuscades.
Moi, j'ai vu un gars du Malawi se faire tuer sous mes yeux. Je n'ai pas réussi à dormir pendant une semaine. J'ai dû raser les murs jusqu'à mon retour ici. Aujourd'hui, ma famille est heureuse de me retrouver en vie.
En Afrique du Sud, Patrick était agent d'entretien. Pendant 4 ans, il envoyait de l'argent à sa famille restée au pays. À présent, ce père de 2 enfants prévoit de travailler la terre et de vendre ses légumes.
Si j'y arrive, je n'aurai plus à quitter mon village.
Comme Djabil et Patrick, près de 50 000 Malawites ont déjà quitté l'Afrique du Sud en seulement quelques semaines. Un exode massif qui reflète un climat de violence et d'hostilité devenu insoutenable. Valentin Hugues, de retour de Salima, RFI.
Un anniversaire ce mois-ci pour la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui célèbre la nomination de ses tout premiers juges nommés. C'était en juillet 2006, il y a 20 ans. Et cela marquait donc le début des travaux de cette instance fondée pour protéger les droits et libertés fondamentales sur le continent, protéger les individus contre la puissance des États. Mais le bilan de cette Cour est visiblement assez mitigé, à en croire un rapport de l'ONG Amnesty International. Alice Banens, conseillère juridique pour l'organisation, justement, estime qu'il reste beaucoup de défis à relever.
D'un côté, on voit que l'accès à la Cour reste encore difficile. On a 34 États partis au protocole de la Cour africaine sur les 55 États membres de l'Union africaine. Uniquement 7 donnent l'accès direct aux individus et aux ONG. Donc, il y a encore des efforts à faire en termes d'accès à la Cour. Mais de l'autre côté, on voit que la Cour, en 20 ans, a jugé au fond plus de 150 affaires, dont des affaires qui sont très emblématiques pour la progression des droits humains sur le continent. La mise en œuvre des décisions de la Cour peine un peu, il faut le reconnaître, mais c'est un problème qu'on voit avec tous les tribunaux internationaux, hein. Ça n'est pas propre à la Cour africaine. Puis les décisions de la Cour restent à force contraignantes, donc tôt ou tard, les États doivent les respecter. Donc la Cour a tout de même fait beaucoup de progrès pour la situation des droits humains en Afrique, mais on attend des États un soutien renforcé pour la Cour.
Alice Banens de l'ONG Amnesty International. Le retour de l'état d'urgence énergétique à Madagascar. Il a été réinstauré vendredi en Conseil des ministres sur l'ensemble du territoire. Ce dispositif avait déjà été décidé il y a 3 mois, quand la guerre au Moyen-Orient avait provoqué une pénurie de carburant. Les tensions persistantes dans la région expliqueraient aujourd'hui encore cette mesure des autorités malgaches, Aurélie Coumont.
Le scénario d'avril se répète. L'objectif affiché par les autorités, sécuriser rapidement l'approvisionnement en carburant et garantir la continuité des services essentiels avant qu'une éventuelle flambée des prix ne touche l'ensemble de l'économie. Concrètement, l'État peut désormais rationner le carburant à la pompe, geler ou plafonner les prix et légiférer par ordonnance sans passer par le Parlement. En avril, cette décision avait provoqué de longues files d'attente à Antananarivo et Tamatave et intensifié les coupures de courant, perturbant hôpitaux et services publics. Madagascar produit l'essentiel de son électricité à partir de carburants importés, notamment depuis Oman. Ce retour intervient 2 semaines après le rétablissement le 1er juillet de l'ajustement automatique des prix à la pompe. Ceci reste pour l'instant fixé à 4860 ariars le litre de gasoil. Aurélie Coumant, Antananarivo, RFI.
4h40 en temps universel, 6h40 ici à Paris.
Afrique Matin sur RFI.
Restez avec nous, bien sûr, sur RFI. Avant RFI Matin, dans un petit peu plus de 19 minutes, on ira rencontrer pour notre reportage du jour les étudiants de l'Institut Polytechnique Oufouette-Boigny à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Une génération formée au rouage de l'intelligence artificielle. Après cela, il y a quoi sur tes réseaux? La chronique des 18-25 ans. On ira rencontrer ici, au Vietnam, Mian, qui vient de décrocher son bac au lycée français d'Hanoï. 100% création, la suite de notre série sur la maison Fragonard. On a rendez-vous aujourd'hui avec la présidente de la maison. Dans quelques minutes, le journal du mondial de la Coupe du Monde de foot avant la grande finale ce soir, Espagne-Argentine. Mais tout d'abord, c'est donc notre reportage du jour. Quand la Côte d'Ivoire a l'ambition de devenir un acteur de l'intelligence artificielle sur le continent. On part donc, je vous l'ai dit, à l'Institut Polytechnique Oufouette-Boigny à Yamoussoukro, car c'est par là que passent ses ambitions numériques ivoiriennes, au sein notamment de l'International Data Science Institute, où une nouvelle génération d'ingénieurs est actuellement en formation. C'est Abdoulaziz Diallo qui a poussé les portes pour nous.
Dans une salle informatique de l'International Data Science Institute, les étudiants ont les yeux rivés sur leurs écrans. Parmi eux, Doma Soro, après une licence à l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée, cette étudiante a choisi de poursuivre sa formation ici, en master sécurité, cybersécurité et intelligence artificielle. Une orientation née de sa découverte de la data science.
J'ai opté pour une spécialisation en data science et là-bas, j'ai eu l'opportunité de voir tout ce qui a trait au métier, ce qui a développé un engouement chez moi. Je ne regrette pas mon choix parce qu'on apprend beaucoup déjà. On a vraiment beaucoup d'opportunités de travailler dans beaucoup d'autres domaines.
Dans cette école, les étudiants apprennent, entre autres, à collecter, traiter et analyser d'immenses volumes de données.
À l'aide du numérique, on a beaucoup de données issues des réseaux sociaux, Facebook et tout. On a vu comment regrouper ces données-là, comment les traiter, pouvoir les utiliser pour prédire éventuellement les comportements des personnes, par exemple sur les achats.
Au terme de chaque semestre, les étudiants, réunis en petits groupes, mettent ces connaissances en pratique à travers des projets IA concrets. Détecter des fraudes bancaires, améliorer des diagnostics médicaux ou encore anticiper les comportements des consommateurs. Début juin, deux équipes de l'International Data Science Institute ont décroché la troisième place mondiale à la Huawei ICT compétition organisée en Chine. Parmi les participants, Bonnie Chris, étudiant en master.
Le projet que j'ai présenté au concours, c'était un outil de conversation qui va permettre justement à un utilisateur de pouvoir être guidé dans son parcours médical. Donc il arrive sur la plateforme et l'intelligence artificielle est capable de lui fournir la clinique qui est la plus proche et qui est capable de répondre à son besoin.
L'accès à l'institut se fait sur concours. Chaque année, 80 étudiants ivoiriens et africains sont sélectionnés. Depuis sa création en 2017, l'école revendique plus de 200 diplômés aujourd'hui insérés dans la vie professionnelle. L'enjeu est de former des experts capables de répondre aux besoins des entreprises. Dr Lambert Tano est le directeur général.
C'est une formation complète qui permet à nos étudiants d'être des data analystes, des data scientists, d'être des data ingénieurs, des experts dans le domaine du machine learning qui leur permet d'occuper des métiers dans tous les secteurs d'activité.
L'International Data Science Institute souhaite désormais renforcer ses activités dans la robotique appliquée. Abdelaziz Diallo, de retour de Yamoussoukro, RFI.
Notre reportage du jour à l'International Data Science Institute de Yamoussoukro a retrouvé à partager sur Internet. Évidemment, ça pourrait peut-être donner des idées.
RFI, toute l'actualité.
Sébastien Duhamel.
4h44 en temps universel, un coup d'œil rapide sur l'actualité internationale avant le journal de la Coupe du Monde de foot. Le nord et le nord-est des États-Unis tout d'abord qui sont plongés dans un épais nuage de fumée causé par les incendies au Canada. Mais de violents orages ont commencé à s'abattre sur New York hier en milieu de journée, susceptibles de dissiper la fumée selon les autorités locales. Les États-Unis qui ont lancé ce matin une nouvelle série de bombardements contre l'Iran, affirmant vouloir punir la mort de deux militaires états-uniens dans des frappes iraniennes en Jordanie. Un troisième militaire états-unien est porté disparu. Et puis la défense civile de Gaza qui annonce que 11 personnes ont été tuées par des frappes israéliennes. Parmi les victimes, un couple et leurs trois enfants tués dans une frappe de missile au nord-ouest de la ville de Gaza. Une porte-parole de l'armée israélienne a indiqué qu'elle visait un terroriste du Hamas.
Le journal de la Coupe du Monde.
Et des terrains beaucoup plus légers. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Sébastien.
Le début de la fin pour la Coupe du Monde, avec cette nuit la petite finale entre la France et l'Angleterre, ça s'est fait. Des Sri Lions qui arrachent la médaille de bronze en profitant de l'entame de match raté des Bleus.
Les Français qui avaient tennis, comme on dit, en clair, pas envie de jouer cette petite finale. Ça s'est vu avec des Bleus menés 2-0 dès la première pause fraîcheur, puis 4-0 à la mi-temps avant un réveil en seconde période. Les Bleus revenus à 4-3, mais pas suffisant. Les Anglais s'imposent finalement 6-4, ce qui confirme que les Français avaient bien tennis. Oui. En tout cas, le long mandat de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France s'achève par une défaite, un 185e et dernier match en tant que sélectionneur, forcément très spécial pour Dédé.
C'était une journée très particulière, puisque là, pour de vrai, je me suis dit, c'est la dernière fois que tu fais ça, c'est la dernière fois que t'es là. J'ai cette fierté avec mon staff d'avoir été au service pendant longtemps, trop longtemps peut-être pour certains, mais bon. D'avoir connu de grands, grands moments. Et puis, depuis ces pas mal d'années, de maintenir l'équipe de France tout là-haut. Certes, pas sur la première marche. Voilà, le sentiment d'avoir beaucoup donné. Je vais parler comme un Legends, un pied énorme sur cette Coupe du Monde, à passer du temps à échanger avec eux. C'était vraiment un pur bonheur, quoi. Et voilà.
Le tout. le toujours Jones Didier Deschamps avec Eric Mamrud. Petite consolation quand même pour les Bleus. Cette petite finale aura permis à Kylian Mbappé de devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. 22 réalisations après son doublé contre les Anglais.
Eh oui, mais attention Antoine, parce que ce record finalement ne pourrait tenir que quelques heures.
Eh oui, parce que le deuxième au tableau des buteurs n'est autre qu'un certain Lionel Messi. 21 buts pour l'Argentin pour l'instant. Mais il lui reste à lui une finale à disputer tout à l'heure face à l'Espagne au MetLife Stadium de New York. L'occasion pour le septuple Ballon d'Or de croiser le fer avec un autre rival ambitieux, Lamine Yamal, qu'il connaît depuis bien longtemps, et une invraisemblable séance photo en 2007, Cédric de Oliveira.
Le cliché a fait le tour du monde. On y voit Lionel Messi donner le bain à Lamine Yamal, encore bébé. Photo improbable entre les deux stars du foot qui en a fait douter beaucoup sur son authenticité. Mais rassurez-vous, le maire de New York, Zoran Mamdani, s'est lui aussi fait piéger.
Moi qui aime penser que je suis plutôt à l'aise avec la technologie et capable de distinguer une image faite par IA d'une vraie photo, j'ai cru que cette photo de Messi et Yamal était fausse. Et en fait, non. Et voir ces deux-là vraiment s'affronter dimanche, c'est incroyable.
En 2007, le petit Yamal et sa famille avaient été tirés au sort pour participer à une opération conjointe de l'UNICEF et du FC Barcelone. Depuis, Lamine a grandi, il est devenu le leader technique du club catalan et de la Roja. Et Lionel Messi a construit sa légende, remportant les trophées à l'époque avec le Barça, devenant champion du monde il y a 4 ans. Interrogé, l'idole argentine s'est montré lui aussi amusé par cette situation improbable.
C'est incroyable. Franchement, cette photo est incroyable. Elle montre comment la vie peut parfois réserver des choses étonnantes. Il était bébé et maintenant on se dispute une Coupe du Monde. À 19 ans, c'est déjà une référence mondiale et il peut réaliser quelque chose d'historique.
Même s'il n'a marqué qu'une fois aux États-Unis, si Yamal et l'Espagne s'imposent, il aura déjà remporté l'Euro et la Coupe du Monde. Mais si son aîné de 20 ans soulève le trophée, il sera double champion du monde. De quoi continuer d'écrire encore sa légende. Cédric de Oliveira, New York, RFI.
Espagne-Argentine, finale de la Coupe du Monde, ça sera évidemment à suivre en direct et en intégralité sur les antennes africaines de RFI avec Cédric de Oliveira et Eric Mamrut. Coup d'envoi 19h, temps universel.
On sera bien sûr au rendez-vous et on peut d'ores et déjà vous remercier Antoine Grenier et remercier tout le service des sports pour nous avoir permis de partager autant d'émotions lors de ce mondial. On vous retrouve tout à l'heure en tout cas. Il est 4h48 en temps universel. Comme chaque dimanche, notre chronique « Y a quoi sur tes réseaux ?» réalisée en collaboration avec 7 jeunes à travers le monde. Ils ont entre 15 et 25 ans. Ils scrollent chaque semaine pour nous raconter ce qu'ils voient tout simplement sur leurs réseaux sociaux. Ce matin, direction le Vietnam, on a rendez-vous avec Mian qui vient d'obtenir son baccalauréat dans le lycée français d'Hanoï. Sur ses réseaux, un mot revient donc partout. La fin. Fin du lycée, fin des examens, fin d'une étape, Anna Le Serre.
Oui chérie.
Oui, tu m'entends ?
Oui chérie.
J'ai eu mon bac.
C'est super mon chéri d'amour.
J'ai eu mon bac.
Là, on a regardé les résultats avec ma mère. En fait, je suis trop fière de moi parce que, dites-vous, déjà, je pensais même pas avoir une mention.
Depuis fin juin, c'est le sujet qui remplit le fil d'actualité de Mian. Les vidéos de réaction aux résultats du bac. Vous vous souvenez de Mian ?
Bonjour. Du coup, j'ai eu mon bac très récemment. J'ai passé les épreuves un peu avant tout le monde parce que j'étais en centre étranger.
Et dans son lycée français à Hanoï, au Vietnam, évidemment, tout le monde attendait avec impatience.
Et on a eu un taux de 100% de réussite au lycée.
Cette année, Mian a même participé à l'une des tendances préférées des bacheliers sur les réseaux.
On donne notre pronostic et ensuite la personne va dire plus ou moins par rapport à la note jusqu'à justement atteindre la note qu'on a eue. Et du coup, ça peut donner place à soit des grandes surprises parce qu'il y a eu des très bonnes notes, soit des grosses déceptions.
Ok. Philo.
15.
Oui. Grand oral.
15.
13. HGSP. HGSP. 12. Plus.
13.
Plus.
14.
Plus.
15.
Plus.
16.
Plus.
17.
Plus.
18.
Plus.
19.
Plus.
Oh
oui.
Oui.
J'ai eu 20 à mes deux spécialités et on voit vraiment la lumière dans mes yeux quand on me dit mes résultats. J'en croyais pas mes yeux, je pensais qu'elle m'avait dit le coefficient ou autre chose. Je prends mon téléphone, je le fixe, mais vraiment, je ne m'y attendais pas du tout. Et elle me dit « c'est pas de l'IA, c'est pas de l'IA ». J'étais refaite.
Mais sur les réseaux, toutes les vidéos ne finissent pas aussi bien.
T'as pas ton bac, c'est la ceinture qui va faire tes bacs. Grosse boule à Z, tu vas ressembler à mon gars Tupac. tu vas vendre des parfums sur Snap, c'est quoi les...
D'autres célèbrent déjà la fin du lycée à leur manière. Brûler ses cours, jeter ses fiches ou transformer ses révisions en robes de soirée font partie des tendances.
Il y a une fille qui a fait une robe avec toutes ses fiches de révision. C'était stylé.
Pour Mian aussi, c'est la fin d'un chapitre, mais contrairement à beaucoup de lycéens, la rentrée prochaine signifie aussi un changement de pays pour elle.
Je quitte le Vietnam, qui est quand même mon pays, mais j'arrive en France, qui est tout autant mon pays, et donc c'est un peu bizarre.
Sur son téléphone, Mian voit défiler des vidéos de jeunes qui disent au revoir à une partie de leur famille pour retrouver une autre partie dans le pays où ils feront leurs études. Ou alors des photos prises depuis le hublot d'un avion avec une phrase pour résumer son humeur qui est souvent mélancolique.
Aujourd'hui, je vais être totalement transparente avec vous sur les fournitures que vous devez absolument avoir pour votre...
Un scroll plus loin et voici déjà les conseils en fournitures pour la rentrée prochaine. Mian fera du droit et des sciences politiques.
Je me dis, il faut que j'apprenne à m'organiser parce que là, on va pas m'écrire aux notes, quoi. Va falloir vraiment que je prenne un agenda.
Pour l'instant, pourtant, Mian essaye surtout de penser aux vacances bien méritées.
Et puis, il y aura la piscine, il y aura la mer...
On félicite Mian pour ses super résultats au bac et on lui souhaite un très bel été. Il y a quoi sur tes réseaux ? On se dit à la semaine prochaine.
Bien sûr, on vous retrouve tous les dimanches, Anna Le Serre et Coralie Pierret. Une autre rencontre maintenant sur RFI avec 100% Création qui poursuit sa série estivale sur la maison Fragonard qui fête cette année son centenaire. Une maison toujours familiale et portée aujourd'hui par la quatrième génération. Dans cet épisode, c'est Agnès Webster qui nous attend, la présidente de Fragonard en personne, avec Maria Afonso bien sûr.
Je passe beaucoup beaucoup de temps dans mon travail, il exige beaucoup d'énergie. Et ça, j'en manque pas.
Agnès Webster, présidente de la maison Fragonard.
Il y a plusieurs choses qui me passionnent dans la création. J'ai créé un prix littéraire depuis 5 ans qui nous permet de reconnaître le travail d'une écrivaine femme étrangère et sa traducteur ou sa traductrice. Le goût pour les musées et les collections que je partage avec mes deux sœurs, qui m'inspirent particulièrement. Les voyages. Après, j'ai aussi la chance de travailler avec des équipes avec lesquelles j'ai des liens très forts et des liens amicaux. Franchement, j'ai beaucoup de chance.
Agnès est née et a grandi à Cannes au sein d'une famille provençale profondément attachée à l'art de vivre et à la tradition. Elle choisit d'étudier le droit et la philosophie, puis s'envole vers l'autre capitale, Paris, où elle débute dans la publicité. Mais son père l'appelle rapidement à ses côtés, à Grasse, la capitale mondiale du parfum, pour rejoindre l'entreprise familiale. Agnès Webster se vit comme une chef d'orchestre avec deux pôles principaux, la création et la communication.
Avec Françoise, ma sœur, nous l'avons construite à la fin des années 90 en disant « Fragonard, c'est une marque que l'on a envie d'avoir chez nous et qu'on l'ait dans toutes les pièces de la maison. Dans la salle de bain avec la parfumerie, dans la cuisine avec les assiettes, dans le salon avec des coussins, sur le lit avec des oreillers et dans le placard avec des vêtements. » Sachant que nous avions la chance d'être producteurs et distributeur. Notre père, sa nouveauté à lui, ça avait été de faire l'ouverture des musées et son père avant lui, l'ouverture des usines au public. Notre nouveauté à nous a été de dire Fragonard est une marque globale. Donc moi, je m'occupe de toute cette partie extérieure. Françoise s'occupe de toute la partie interne et nous avons une entente absolue qui fait que nous pouvons diriger à deux sans aucun problème.
Agnès Webster a un processus créatif qui se déclenche plutôt la nuit.
La nuit, je pense beaucoup. Je me raconte des histoires que j'écris pour les partagé avec mon équipe créative et avec mes sœurs. Donc pour la parfumerie, j'arrive avec une idée de gamme, une idée d'histoire, une autre toilette, une autre parfum, ça peut être des savons, des bougies, de la brume parfumée. Et puis pour la mode et la maison, sauf cette année qui est l'année du centenaire, d'habitude nous fonctionnons à partir d'une histoire de voyage imaginaire. Tout ce qui est mode et maison est fabriqué à l'étranger dans des ateliers que nous allons voir au moins une à deux fois par an, principalement en Inde.
Retrouvez tout l'univers d'Agnès Webster et de la maison Fragonard en podcast sur RFI.fr, chronique 100% création, sur RFI Pure Radio et en images sur les réseaux sociaux.
Création tous les dimanches sur RFI. Il est 6h tout juste 56 minutes ici à Paris. Avant de retrouver RFI Matin, on marque une petite pause en musique avec un extrait de la playlist RFI Musique du mois, The Wave Jungle.
c'était.